これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッベンガ
ルゲーサヴォアUne émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Anne Brissier.
Et à la réalisation, Philippe Baudouin.
En toute humilité, Jean-Paul Sartre voulait être à la fois Stendhal et Spinoza. Mais qu'il y réfléchisse ou bien qu'il le raconte, le réel, selon Sartre, n'est que silence. Et nul ne sait pourquoi le monde est sans pourquoi. Ce qui existe, existe et se trouve là, sans cause ni terme, pour l'éternité. Alors Sartre, pourquoi pas ? La nausée est le journal de bord d'un homme qui se désigne lui-même comme une épave sans mémoire, naviguant à vue dans un monde sans Dieu. Ce monde, le monde de l'existence, c'est le nôtre bien sûr, mais soudain débarrassé de nous-mêmes, c'est-à-dire du désir de sens et du sentiment de l'utile. Ici-bas, Dieu est mort, mais surtout, surtout, il n'a jamais vécu.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Un dimanche de novembre, surtout s'il est gris et pluvieux, est le jour idéal pour parler de la nausée de Sartre. Ce singulier roman qui vous laisse comme un arrière-goût de bière tiède dans la bouche. C'est l'histoire d'Antoine Roquentin qui, après avoir beaucoup voyagé, se retrouve à Bouville, une ville qui porte bien son nom. Il écrit un livre sur le marquis de Rolbon, une sorte de double masqué. Il travaille souvent à la bibliothèque où il côtoie l'autodidacte, un humaniste qui s'instruit par ordre alphabétique. Mais plus rien ne va de soi pour Roquentin depuis que la nausée s'est saisie de lui une première fois sur la plage, et puis il ne l'a plus lâché. Dans un texte censé précéder le roman, Sartre écrit « La nausée, c'est l'existence qui se dévoile. Et ça n'est pas beau à voir, l'existence. »
Je suis inquiet. Voilà une demi-heure que j'évite de regarder ce verre de bière. Je regarde au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche, mais lui, je ne veux pas le voir. Et je sais très bien que tous les célibataires qui m'entourent ne peuvent m'être d'aucun secours. Il est trop tard, je ne peux plus me réfugier parmi eux. Il viendrait me tapoter l'épaule, il me dirait « Eh bien, qu'est-ce qu'il a, ce verre de bière ?» Il est comme les autres, il est biseauté avec une anse, il porte un petit écusson avec une pelle et sur l'écusson on a écrit Spatenbrau. Je sais tout cela, mais je sais qu'il y a autre chose, presque rien. Mais je ne peux plus expliquer ce que je vois, à personne. Voilà, je glisse tout doucement au fond de l'eau, vers la peur.
Là, Raphaël, on est bien dans l'inquiétante étrangeté du monde, non ?
L'inquiétante étrangeté, c'est exactement l'expression. L'étrangeté en tant qu'elle est inquiétante. Le monde de la nausée est un monde extrêmement inquiétant, alors que c'est un monde d'une banalité. On est à Bouville, c'est-à-dire au Havre, en vérité. Enfin, on ne peut jamais rabattre une ville fictive sur une ville réelle, etc. Bouville, c'est aussi la ville de la boue, ça n'est pas que le Havre. Reste que Sartre a fait une expérience au Havre de cet ordre-là. Quand il était professeur de terminale, il avait succédé d'ailleurs à précéder Raymond Aron, qui lui-même avait été prof de terminale.
Et justement, par rapport à notre texte, c'est Raymond Aron qui a dit à Sartre, lorsqu'il était, après avoir côtoyé Husserl, il lui dit « Tu vois, si tu es phénoménologue, tu peux parler de ce cocktail, et ça, c'est de la philosophie. »
De ce jus d'abricot.
Oui.
C'était un jus d'abricot.
Et il s'est avéré qu'en fait, c'était un verre de bière aussi.
Ah, ça, c'est vous qui me l'apprenez, Paola.
Je
m'en remets à vous, d'autant que vous parlez de bière tiède, et vous avez tout à fait raison. La nausée, c'est le monde du tiède. C'est pire que le froid, c'est pire que le chaud. Le froid et le chaud ont l'univocité des impressions qu'ils déposent en nous. Pour eux, le tiède, c'est dégueulasse. C'est dans le tiède que les choses fermentent. C'est au sein du tiède, c'est au sein de la tiédeur que le monde pourrit tranquillement, vous voyez. Et ça, c'est le monde de la nausée. Alors, c'est un monde d'une banalité totale, vous l'avez rappelé. Antoine Roquentin, bon, à 35 ans, il fait une thèse en histoire sur le marquis de Rolbon, obscur personnage, illustrissime inconnu. Il a une petite vie, il a une ex qui s'appelle Annie. Il a une patronne qu'il baise de temps en temps, c'est lui qui le dit par politesse. Il s'ennuie, et puis son ennui prend soudain une dimension métaphysique. Cet ennui recouvre soudain le monde entier, plus exactement le monde entier. Lui apparaît comme terrifiant, terrifiant. Le moindre objet, le plus banal, lui apparaît comme terrifiant. Ce qui, en réalité, l'expression n'est pas innocente ici, en réalité, c'est un homme qui entre en réalité. Il découvre ce qu'est la réalité. La réalité lui semble d'abord terrifiante. Il apprendra ensuite à en faire la matière d'un enchantement. Et la nausée s'achèvera sur la décision d'arrêter sa thèse et d'écrire un roman. Mais avant cela, il traverse toutes les étapes de la peur. C'est le texte qu'on vient d'entendre à propos de ce verre de bière. C'est un texte sur la peur, c'est un texte. C'est pas seulement la peur, en fait. C'est un texte sur l'angoisse.
Et c'est un texte sur l'angoisse, et c'est un texte angoissant, parce qu'il faut rappeler que c'est un texte qu'on ne peut pas lire autrement que dans une espèce de corps à corps. On ne peut pas prendre de distance. On fait la même expérience que Roquentin quand on lit.
On ne peut pas prendre de distance, à moins d'y être complètement étranger et de ne pas du tout savoir de quoi il parle. Or, c'est quand même très difficile d'être étranger au texte, parce que ce qu'il raconte est par ailleurs tout à fait simple, anodin, banal. Le type va de la bibliothèque au bar, où il boit une bière tiède, donc, en passant par la chambre de son ex, ou un déjeuner avec l'autodidacte qui est le roi des imbéciles qui apprend toutes les choses qui existent dans la bibliothèque de A à Z dans l'ordre. C'est très difficile de ne pas comprendre ce qu'il dit. On ne peut pas se réfugier avec la nausée derrière le jargon pour faire semblant de ne pas avoir compris. Parce que ça, c'est une des stratégies. Vous savez, on reproche souvent à la philosophie son jargon. Mais il y a une bonne partie des gens qui reprochent à la philosophie son jargon qui en réalité se réfugient derrière le sentiment du jargon pour ne pas entrevoir ce qu'ils sont en train de lire. Or, dans la nausée, on n'a pas cet échappatoire. On l'a dans L'être et le néant, qui est vraiment la version théorique de ce que la nausée décrit de manière pratique, empirique, existentielle. Mais dans la nausée, on ne peut pas se planquer. Donc c'est très difficile de dire qu'on n'y comprend rien. Et en même temps, ce qu'il décrit est hallucinant. Il décrit un état qu'il est assez facile d'éprouver, qui est le moment où les choses sont dépouillées de leur fonction, sont dépouillées de tout ce que l'usage a déposé de rassurant sur elles. Si vous voyez un verre de bière, parce que vous êtes en train de boire une bière, vous êtes avec vos amis, vous buvez une bière, tout va bien, bon, avec modération naturellement, car nous sommes à l'antenne, vous buvez une bière, tout est bien, c'est sympa, pas de problème. Si vous êtes seul, par exemple, ou si vous êtes seul au milieu de vos amis, et que vous regardez ce verre de bière, vous faites à ce moment-là une expérience ontologique qui consiste à dépouiller ce verre de son utilité, et vous le regardez comme tel, tel qu'il est, tel qu'il se donne. Et là, c'est terrifiant.
Je viens de sortir de chez moi, mais je ne reconnais pas ma rue. C'est un couloir humide et froid qui se perd plus loin que ma vue. Il n'y a plus de magasins, rien que des fenêtres borgneuses, rien que des fenêtres borgneuses. Et je marche sur du sapin. Étrange boule de lumière tombe en éclats juste à mes pieds, et de tous ces débris de verre en sort un papillon doré, et il se pose sur ma main et il me prend pour une rose, et il me prend pour une rose. Il dit qu'il aime mon parfum. Dimanche. et j'entends une symphonie.
Elle est jouée sur une enclume par un enfant qui me sourit.
J'ai une question pour vous, parce que je me souviens que dans une émission consacrée à Descartes, oui, au moment du morceau de cire, j'avais fait une analogie entre le morceau de cire et puis l'expérience de Roquentin dans la nausée. Maintenant, je m'en repens un petit peu, mais quelle est justement la différence entre l'expérience du morceau de cire et l'expérience du verre de bière ?
Alors, c'est deux expériences tout à fait antithétiques, pour une raison simple. C'est que fait Descartes avec le morceau de cire ? Il se demande ce qui lui permet de continuer à l'appeler morceau de cire quand bien même le morceau de cire change de forme, de consistance, d'odeur ou de température.
Et là, précisément, le verre de bière ne change pas, il est tel qu'il est.
Alors voilà, d'abord on a affaire à une matière mobile avec le morceau de cire. Donc on a de l'être qui devient. Et sur cet être qui devient, sur ce devenir, Descartes s'interroge sur la capacité dont je dispose, dont mon esprit dispose, et que je retrouve par inspection de mon esprit, sur la capacité qui donc est la mienne, à déposer sur ce devenir la constance d'un concept, ou d'une notion, ou d'un terme, le mot de cire. Il s'interroge sur la possibilité, le droit, la légitimité qui est la mienne à le faire. Sartre fait exactement le contraire. Dans la nausée, les objets, d'abord, ne bougent pas. Ou plutôt, il a parfois l'impression qu'ils bougent, mais qu'ils sont comme des bêtes molles. Des bêtes vivantes, mais des bêtes molles. Mais surtout, ils sont là. Ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont là. Tout est là tout le temps, c'est épuisant, c'est dégueulasse. Et donc, les objets, d'abord, ne bougent pas. À la différence du morceau de cire, le verre de bière ne bouge pas, vous avez tout à fait raison. On est dans l'être, hein, dans le gros plein d'être, hein, du verre de bière. Et puis, le problème de Sartre n'est plus de retrouver un mot qui permet de recouvrir la mobilité des phénomènes. Le problème de Sartre dans la nausée, c'est que précisément face à ces objets qui ne bougent pas, les mots font défaut. Je suis au milieu des choses, les innommables, il dit. Il faut bien entendre ce mot dans les deux sens. Innommable parce que immonde, innommable parce que indicible. Le langage s'épuise devant le réel. Le réel est d'une étoffe telle que le langage ne peut pas le saisir. Vraiment, on est avec Sartre et la nausée du côté non pas du morceau de cire, mais du morceau de camembert auquel on avait opposé le morceau de cire.
De Clément Rosset.
Voilà, le morceau de camembert de Clément Rosset. Morceau de camembert, alors Clément Rosset qui est plus joyeux que Sartre, aussi génial à mon avis, et plus joyeux, ne dit pas que le morceau de camembert est innommable, il dit qu'il est incomparable. Mais au fond, c'est la même chose. Les mots s'épuisent face au réel. Vous avez avec Descartes un devenir que les mots doivent ressaisir. Vous avez avec Sartre ou avec Clément Rosset une expérience ontologique que les mots sont impuissants à décrire. Et pourtant, les deux sont des prosateurs inouïs. Mais vous voyez, pour vous donner un exemple très précis, on est au tout début de la nausée. Et il dit « Voici un étui de carton que contient ma bouteille d'encre. Il faudrait essayer de dire comment je le voyais avant, en italique. Et comment, à présent, je le... » Et là, il n'y a rien. Il y a une note en bas de page, un mot laissé en blanc. Il y en a plein. Hein. Il y en a un deuxième juste après.
Forcé. Hein, dans... Est-ce que c'est forcé ? Est-ce que c'est
Exactement. Forcé ou forgé. Un mot est raturé. Peut-être forcé ou forgé. Tout ça est un artifice, naturellement. Hein. Mais c'est très intéressant. Dans ce feuillet sans date, que le narrateur présente comme un feuillet sans date, alors que c'est l'œuvre de Sartre, les mots manquent. Et puis les mots sont impuissants. Les mots n'arrivent pas à saisir le monde. Et c'est ça la difficulté de la nausée. C'est ça le problème de la nausée. Un problème qu'il faut prendre à sa racine, Paola.
Et justement, je voulais juste signaler une analogie, encore une fois, entre Sartre et Descartes. Mais il y a l'image de la noyade qu'on trouvait dans les méditations métaphysiques.
Oui.
Et qu'on retrouve là, je glisse tout doucement au fond de l'eau.
Oui, à ceci près, là encore. Alors, par ailleurs, Sartre est cartésien, à plus d'un titre, il maintient l'idée d'un sujet. Bon, mais ça nous emmènerait ailleurs et trop loin. Mais vous avez raison avec cette analogie. Pour mémoire, pour nos auditeurs, la fin de la première méditation métaphysique, Et le début de la seconde, c'est une noyade. C'est un homme qui n'a pas encore touché le fond, mais la surface est loin de lui. Donc il faut continuer d'avancer. On a une espèce de volontarisme cartésien comme ça, où il faut continuer à avancer, descendre pour rebondir, ou bien remonter à la surface, mais enfin, il faut avancer. Or là, il y a une sorte de nonchalance angoissée, de flemme terrifiée dans la nausée, qui fait qu'on glisse tout doucement au fond de l'eau vers la peur. Mais je voudrais qu'on entende, Paola, le texte, un texte tardif dans la nausée, qui est le texte sur la racine, justement, qui prolonge, pour le coup, l'anti-cartésianisme de Sartre, qui permet de le comprendre. On va entendre avec ce texte la façon dont Sartre lui-même reprend, comme Descartes, les choses à la racine.
Donc j'étais tout à l'heure au jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis, et avec eux la signification des choses, leur mode d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute, qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination. Ça m'a coupé le souffle. Jamais avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister. Si l'on m'avait demandé ce que c'était que l'existence, j'aurais répondu de bonne foi que ça n'était rien, tout juste une forme vide qui venait s'ajouter aux choses du dehors, sans rien changer à leur nature. Et puis voilà. Tout d'un coup, c'était là. C'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la pâte même des choses. Cette racine était pétrie dans de l'existence. Ou plutôt, la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu. Il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre, nu, d'une effrayante et obscène nudité.
Justement, le marronnier, la racine dans ce texte, n'est justement pas à prendre comme une métaphore ou un symbole, c'est de la réalité pure.
Oui, vous avez raison, et en même temps, je crois que c'est quand même une métaphore. C'est quand même un roman didactique, si vous voulez, c'est quand même un roman, c'est quand même une allégorie, hein, au fond, la nausée. Alors, éliminons le côté métaphorique de l'histoire, ou disons, expédions-le. Il s'agit de reprendre les choses à la racine. Bon. C'est une démarche, au sens littéral du terme, en latin, radex, c'est la racine, c'est une démarche radicale. Donc, il s'agit de reprendre les choses à la racine, mais de découvrir, ce faisant, qu'elles n'ont pas de commencement. Quand Descartes reprend les choses à la racine, il arrive à situer un commencement, un début. Notion de commencement qui est infiniment problématique chez Descartes. Laissons ça. Ici, la racine s'enfonce dans la terre. La racine est elle-même le produit de quelque chose. Donc, par l'examen de la racine, c'est-à-dire par le fait de prendre la métaphore au premier degré, au fond, pour reprendre les choses à la racine, de parler d'une racine, dans le simple fait de revenir au premier degré, dans cette candeur du type qui ne se contente pas d'une métaphore au fond, mais qui veut revenir en amont de ça vers la racine telle qu'elle est, telle qu'elle apparaît, telle qu'elle surgit dans son effrayante et obscène nudité, il y a une décision radicale, justement, qui est de découvrir qu'il n'y a pas de commencement, de faire l'expérience de l'incommencement du monde, du fait que le monde est toujours déjà là, et que c'est illusoirement qu'on le tient pour bordé de néant. Le néant chez Sartre, c'est la liberté. Le néant chez Sartre, ça n'est pas ce qui précède l'être, comme si notre monde avait été tiré du néant. Vous voyez, Sartre ne se demande jamais pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. C'est pas son problème, ça. Quand il parle de l'être et le néant, il faut bien comprendre que la mort, pour Sartre, c'est l'être, c'est pas le néant. Le néant, c'est la liberté, c'est l'incoïncidence avec soi qui fait que nous sommes des êtres libres et condamnés à être libres. Mais cette expérience de la racine est en cela une expérience dont la radicalité conjure la tentation de la table rase, c'est-à-dire la tentation, justement, de la radicalité elle-même. C'est quand même bizarre de penser que cet homme-là sera ensuite tellement radical politiquement. Mmh. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai tendance à penser que Sartre est un antidote à lui-même et qu'il faut lire La Nausée pour guérir des communistes et la paix. Mais bon,
et
ça, c'est une autre affaire.
Justement, en quoi est-ce que La Nausée est un révélateur, enfin, en quoi est-ce que La Nausée permet justement de découvrir? Il y a le mot « se cache » dans le texte qu'on vient de lire. Hein. À l'ordinaire, l'existence se cache.
Oui, elle se cache derrière notre amnésie. L'amnésie, c'est le quotidien. L'amnésie, c'est la réduction du monde aux besoins qu'on en a. C'est le cerveau, comme dit Bergson, réduit à une gare de triage. C'est ce qui fait que nous vivons. Or, vivre consiste à agir. Agir consiste à sélectionner dans le monde les choses dont on a besoin pour agir. C'est ça, l'amnésie. L'amnésie, c'est la réduction des objets à leur fonction. Retrouver la mémoire, se réveiller, comme d'un étourdissement d'ailleurs, c'est découvrir ce que sont les objets en amont de la fonction rassurante qu'on leur a attribuée. C'est l'expérience que fait Deleuze qu'il décrit dans un texte sur Kafka quand il parle de matière verbale. On a tous joué à ça. Canapé, 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 canapé. Vous le dites 10 fois. Au bout d'un moment, ce mot ne veut plus rien dire. Il n'y a plus qu'un borborygme, des syllabes qui en elles-mêmes n'ont aucun sens. On est dans la matière en amont de la synthèse. On est avant le processus de synthèse. On est avant la forme. On est dans la matière. Une forme s'est estompée parce que, au fond, les choses n'ont pour forme que la fonction qu'on leur donne. Et en amont de la forme qu'elles ont, il y a la matière qui les constitue. Et c'est ça qui est écœurant.
L'obscène nudité, c'est ça.
L'obscène nudité. Il faut prendre obscène, obscène. Au mot, vraiment au sens littéral. C'est ce qui est sur le devant de la scène. L'obscène nudité, c'est ce qui est sur le devant de la scène. C'est-à-dire que, finalement, la nudité qui a été recouverte par l'habitude, par l'usage, par le sommeil tranquille, cette nudité est désormais révélée. Par une sorte d'anti-illumination, au fond, se met à regarder les choses comme s'il les voyait pour la première fois. Et c'est cette expérience-là qui est très frappante. La nausée, c'est le récit d'un éveil. C'est un homme qui sort de sa torpeur. Et la façon qu'il a de sortir de sa torpeur, c'est de se sentir justement saisi par une torpeur inouïe qui l'empêche même de tourner la tête de peur qu'elle tombe. Et c'est en cela, c'est la manière qu'il a de se réveiller, justement. Et cette malédiction qui est la sienne est en fait un éveil. Et c'est un éveil qui le rend sensible, dès le début du roman, à la figure de tous ceux qui s'endorment de leur vivant. Notamment le garçon de café. Le garçon de café qui n'est pas celui de L'Être et le Néant. C'est le garçon de café de L'Être et le Néant qui joue au garçon de café, qui est nerveux, habile, agile et qui met en scène sa propre habileté. Non, là, c'est le garçon de café de La Nausée, Monsieur Fasquel, le garçon du café Mably. Écoutez ça. Il est 1h30. Je suis au café Mably, je mange un sandwich, tout est à peu près normal. D'ailleurs, dans les cafés, tout est toujours normal, et particulièrement au café Mably, à cause du gérant, Monsieur Fasquel, qui porte sur sa figure un air de canaillerie bien positif et rassurant. C'est bientôt l'heure de sa sieste, et ses yeux sont déjà roses. Mais son allure reste vive et décidée. Il se promène entre les tables et s'approche en confidence des consommateurs. « C'est bien comme cela, monsieur ?» Je souris de le voir si vif. Aux heures où son établissement se vide, sa tête se vide aussi. De 2 à 4, le café est désert. Alors, Monsieur Fasquel fait quelques pas d'un air hébété. Les garçons éteignent les lumières et ils glissent dans l'inconscience. Quand cet homme est seul, il s'endort.
Philosophers and poets have long called Paris home. Famous chefs and writers, the Paris streets still roam. We have never been there. Why? I can't explain. Now our kids are off to college, and we're taking the next plane. I want to sit where Sartre sat. We'll sip espressos and we'll chat about life's emptiness and misery. We'll see that Moulin Rouge. We're gonna drive there in our Peugeot. That's French for car, take it from me. We'll head down to the Louvre. All those pictures, you'll say you feel like you've been swept back into history.
Le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann. Aujourd'hui, c'est de La Nausée de Jean-Paul Sartre que nous vous parlons.
Mona Lisa will be smiling, 'cause she's looking at you and me. We'll dine on French cuisine, gourmet meals and in between, pastries, chocolates, goodies till our buttons burst. But we'll just keep on eating, 'cause around every corner's a treat, and to leave a sweet treat uneaten, that would be the worst. You'll shop for haute couture, endless fittings you'll endure, till at last you're ready to star in your own fashion show. We'll climb the Eiffel Tower and pass the sunset hour, watching lights come on all across the city below. Best gown, and we'll step out on the town. We're gonna dance till two, like Rogers and Astaire. We'll find a late night brasserie, many oysters, you and me. We'll make romance Parisian style in the cool night air. We'll walk home along the Seine, I'll look into your eyes and then I'll say je t'aime, you'll say.
Alors qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce garçon de café? Qu'est-ce que vous voyez dans la métaphore du sommeil?
Il s'endort quand on le regarde plus. La position de Roquentin est très particulière. Roquentin est un personnage à qui il est donné de voir la nature sans les hommes, ce qu'il appelle la nature sans les hommes. Or, la meilleure image de ça, c'est l'image d'un homme qui, quand il n'est plus sous le regard des autres, s'endort. Monsieur Fasquelle, garçon de café, pique un somme, pique un petit chien, comme disait Flaubert, au moment où plus personne ne le regarde. Parce que plus personne ne le regarde. Que voit Roquentin, lui? Il voit un homme qui s'éteint quand la lumière du regard d'autrui s'en va. C'est-à-dire quand il n'est plus réifié par autrui, quand il n'a plus de fonction, quand il n'a plus de rôle, dans ce grand théâtre de l'humanité, où un garçon de café doit être garçon de café et doit jouer au garçon de café. C'est vrai dans la nausée comme dans l'être et le néant, évidemment. Et bien dans ce grand théâtre, un acteur qui sort de la lumière, c'est-à-dire du regard des spectateurs, s'endort. Et l'image de cet homme qui s'endort, alors évidemment c'est un type qui a, bon voilà, il digère, il fait la sieste, c'est l'après-midi, il a l'habitude de dormir, il y a rien, tout ça est très anodin. Mais sous cet anodin, sous ce quotidien, sous cette quotidienneté oppressante, il y a une information décisive qui est à quoi ressemble le monde quand on ne le regarde pas. Et là vous avez chez Sartre, et Sartre connaissait ses classiques, une réponse de Sartre à l'immatérialisme de Berkeley. Paola, pour le dire très simplement, l'immatérialisme de Berkeley repose notamment sur l'idée que, sur une des inconnues chez Berkeley, c'est qu'en est-il du monde quand je n'en suis pas le spectateur? Qu'est-ce qui me garantit son existence quand je n'en suis pas le spectateur? Et la fameuse phrase qu'on a retenue de Berkeley, c'est que être, c'était percevoir ou être perçu. Voilà un homme qui ne perçoit plus puisqu'il ferme les yeux et qui n'est plus perçu puisque plus personne le regarde. Et bien voilà ce qu'il en est. Le monde demeure, mais le monde s'assoupit. Le monde s'endort, plus exactement, le monde s'endort à l'humanité qui lui donnait un sens. Et il revient, il retourne à son existence de choses. Moi, ça m'a toujours fait penser aux casse-noisettes, aux marionnettes qui se réveillent, à tout ce qui prend vie quand les humains ne les regardent pas. Toutes ces choses qui prennent vie quand les humains ne posent plus leurs yeux dessus. Paradoxalement, vous voyez, ce sommeil est une façon de reprendre vie.
Il y a d'autres personnages dans la nausée qui s'endorment, mais alors, Roquentin, on voit pas la même chose. Par exemple, je pense au docteur Roger, quand il s'endort dans le café.
Le docteur
Roger. Roquentin voit un cadavre, par exemple.
«
Le docteur Roger a bu son calvados. Son grand corps se tasse et ses paupières tombent lourdement. Pour la première fois, je vois son visage sans les yeux. On dirait un masque de carton comme ceux qu'on vend aujourd'hui dans les boutiques. Ses joues ont une affreuse couleur rose. La vérité m'apparaît brusquement. Cet homme va bientôt mourir. Il le sait sûrement. Il suffit qu'il se soit regardé dans une glace. Il ressemble chaque jour un peu plus au cadavre qu'il sera. Voilà ce que c'est que leur expérience. Voilà pourquoi je me suis dit si souvent qu'elle sent la mort. C'est leur dernière défense. Le docteur voudrait bien y croire. Il voudrait se masquer l'insoutenable réalité. Qu'il est seul, sans acquis, sans passé, avec une intelligence qui s'empâte, un corps qui se défait. Alors il a bien construit, bien aménagé, bien capitonné son petit délire de compensation. Il se dit qu'il progresse. Il a des trous de pensée, des moments où ça tourne à vide dans sa tête. C'est que son jugement n'a plus la précipitation de la jeunesse. Il ne comprend plus ce qu'il lit dans les livres. C'est qu'il est si loin des livres à présent. Il ne peut plus faire l'amour, mais il l'a fait. Avoir fait l'amour, c'est beaucoup mieux que de le faire encore. Avec le recul, on juge, on compare et réfléchit. Et ce terrible visage de cadavre, pour en pouvoir supporter la vue dans les miroirs, il s'efforce de croire que les leçons de l'expérience s'y sont gravées.
Le jugement de Roquentin est terrible dans ce texte.
Terrible.
Il fout la trouille.
Oui, il fout la trouille. Ça me rappelle une phrase de Guitry qui se moque des vieillards qui donnent de bons conseils parce qu'ils ne sont plus en âge de donner de mauvais exemples. Le docteur Roger, il va mourir. Et sous son visage serein de bon vieillard qui boit son calvados, Roquentin voit la réalité d'une mort imminente. Quand il dit d'ailleurs « cet homme va mourir », il pourrait le dire de tous. Mais c'est particulièrement frappant avec le docteur Roger, parce que le docteur Roger est celui dont la physionomie, dont l'allure, la façon qu'il a probablement de s'asseoir...
Juste avant, il dit que c'est un homme qui est beau. Le docteur Roger.
Oui, il a bonne allure, hein, il porte beau. Mais il s'assoit, il est bien dans son ventre, si vous voulez, c'est le gros plein d'être. C'est le salaud, c'est l'homme de mauvaise foi. Il ne faut pas avoir un jugement de valeur d'ailleurs derrière ça, en tout cas pas là. C'est le type qui s'est fait un petit délire de compensation. C'est le type qui, pour supporter l'irréversibilité du temps, s'est improvisé des choses qui demeurent, ou a pris pour argent comptant, si j'ose dire, l'apparente immobilité de son visage et qui s'empresse de ralentir le temps en développant des gestes lents. C'est un homme qui s'endort, là aussi. C'est un homme qui s'endort parce que l'éveil serait terrible. L'éveil serait la conscience de l'éminence, plus que l'imminence de la mort et de sa mort.
Et il masque ça avec l'expérience, c'est ça ? C'est l'expérience.
Oui, c'est-à-dire qu'on a toujours, on dit, oui, je suis vieux, j'ai donc de l'expérience. J'ai jamais été frappé, moi, par l'expérience des vieillards. Moi, j'ai jamais été frappé par le fait que les personnes âgées avaient plus d'expérience. Enfin, m'a toujours semblé, le proverbe « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », m'a toujours semblé une forme de truisme, enfin de banalité fausse à force d'être banale. D'abord parce que jeunesse sait. Le problème n'est pas de savoir ou d'ignorer, le problème est de savoir ce qu'on sait. Et jeunesse sait d'autant plus qu'elle a moins de préjugés en un sens. Et puis, si vieillesse pouvait, vieillesse peut, mais ce que vieillesse ne peut pas, elle le remplace par le sentiment qu'elle a pu. Et il y a, chez le docteur Roger, la tentation que Sartre critique dans La Nausée, qui est en fait une tentation de propriétaire. Il dit « le passé, c'est un luxe de propriétaire ». La tentation d'attraper le temps par la queue, c'est-à-dire de reconstruire après coup toute une existence en lui donnant un sens. C'est ce que Sartre appelle le destin. Le destin, c'est le nom que nous donnons à notre vie une fois qu'elle arrive à son terme. J'ai eu un destin, c'était mon destin. C'est comme quand on fait des bilans, voyez. C'est comme quand on se vit soi-même comme un gros meuble à tiroir encombré de bilans. Voilà, on regarde sa vie rétrospectivement et on dit « voilà ce que c'est que ma vie, voilà ce que c'est que mon destin ». Mais au fond, en disant cela, on ne fait que interpréter en termes téléologiques, c'est-à-dire en termes de destination, de finalité, la contingence d'une existence où chacun, comme tout le monde, a fait ce qu'il a pu. Et où nous n'avons pas su que faire de notre liberté. Et Sartre s'en prend avec la figure du docteur Roger à tous ceux qui, pour ne pas affronter l'avenir, c'est-à-dire l'immédiat, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux, se réfugient dans le passé et dans le sentiment qu'ils ont vécu, c'est-à-dire les tempéraments de propriétaires, c'est-à-dire au fond les bourgeois. C'est ça, la bourgeoisie chez Sartre. La bourgeoisie, c'est en cela, si vous voulez, que le Sartre de la nausée est un antidote au Sartre des communistes et la paix. C'est que le Sartre des communistes et la paix donnera de la bourgeoisie une définition extraordinairement restrictive et quasiment sociologique. C'est quand même pas grand-chose. Réduire la bourgeoisie à une classe sociale, c'est quand même... C'est beaucoup plus intéressant que ça, la bourgeoisie. D'ailleurs, Sartre lui-même, en écrivant son Flaubert, s'apercevra qu'être un bourgeois, c'est pas seulement... Qu'être bourgeois, ça n'est pas seulement être un bourgeois. Et que être bourgeois dans son esprit, dans son âme, c'est tout simplement... compenser le passage du temps et cette insoutenable liberté qui nous constitue en la recouvrant du filtre rassurant de nos certitudes, de nos convictions, de nos bilans, de nos digestions, de tous les comportements adipeux dont on recouvre la sécheresse du monde.
Il y a cette phrase qui est terrible dans le texte, donc sur le docteur Roger, je vous la relis. Il ne peut plus faire l'amour, mais il l'a fait. Avoir fait l'amour, c'est beaucoup mieux que de le faire encore. Avec le recul, on juge, on compare et réfléchit.
C'est intéressant parce que c'est un discours indirect libre. On sent la voix du docteur Roger, mais en même temps, il ne dit pas « je », il dit « on ». Il y a un passage comme ça. Alors ça, pour le coup, c'est Sartre qui a lu Flaubert. Au tout début de Madame Bovary, Madame Bovary est le roman de l'expérience ontologique par excellence, hein, puisque la casquette de Charles ou la description de la pièce montée, qui sont des descriptions hallucinantes dans Madame Bovary, sont des descriptions hallucinantes parce que précises. Plus on regarde l'objet, moins on le voit. Flaubert est le premier à avoir donné cette intuition-là à Sartre. Sartre avait lu déjà Flaubert au moment de la nausée. Et au tout début de Madame Bovary, la première rencontre entre Emma et Charles, Emma discute avec Charles, et Charles observe la petite langue d'Emma qui va chercher le fond du verre de Curaçao qu'elle lui a servi. Il regarde ça, il est fasciné. Et c'est un peu le docteur Roger, hein, Charles Bovary. Il est fasciné par cette femme encore vivante, qui va mourir de son vivant, mais il ne le sait pas, et il sait encore moins que c'est à cause de lui. Mais surtout, dans la discussion qu'ils ont, à un moment, Emma lui dit « On était si mal servis ». Dit « On était si mal servis ». Je ne sais plus à quel propos elle le lui dit. Mais c'est un discours indirect libre. Et cette formule-là, on la retrouve ici quand Sartre dit «
On compare, on réfléchit.
On compare, on juge, on compare ». On réfléchit. C'est la parole semi-rapportée du bonhomme. Alors pourquoi est-elle semi-rapportée? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas parler le docteur Roger, tout simplement? Parce qu'au fond, le docteur Roger, cet être de rassurance, si j'ose dire, cet être qui se capitonne, a besoin, pour se capitonner, au fond, de diluer la singularité de sa subjectivité dans une sorte de généralité globale. C'est l'homme des micro-trottoirs, le docteur Roger. C'est l'homme qui, à l'instant où on lui donne la parole, enfonce des portes ouvertes, dit des banalités. C'est l'homme du « on ». Voilà. C'est la première personne de l'opinion publique.
J'allais dans votre sens parce qu'au moment où il rentre, donc il y a un personnage qui est assez marrant, dont on peut parler, c'est Monsieur Achille. Monsieur Achille, il est un peu comme Roquentin, quoi. C'est un type tout à fait seul. Et puis, il va faire une crise. Et là, il y a le docteur Roger qui entre et qui dit « Oh, c'est un toquet !» Et là, l'autre se calme parce que c'est rassurant d'être mis dans une case.
Exactement. C'est rassurant. C'est-à-dire que quand on désigne quelqu'un comme toquet...
Tout ce qu'il fait devient prévisible puisque c'est un toquet.
Voilà. Il est enfermé dans une essence. On a produit une essence. Au fond, Sartre fait, à sa manière, la généalogie de l'idée que nous sommes une essence avant d'être une existence. C'est-à-dire que nous contenons en germe tout ce que nous développons dans le temps de la vie. Il fait la généalogie de cette idée fausse. L'existence précède l'essence, comme il le dit doctement. Or, dire de l'existence que l'existence précède l'essence et éprouver que l'existence précède l'essence, c'est aussi décrire ce qu'il y a de rassurant dans le fait d'être catalogué. Vous êtes un toqué, vous êtes une élève brillante, c'est un garçon de café. C'est-à-dire ce qu'il y a de rassurant dans les étiquettes. Et cette description-là est très intéressante parce que c'est très aliénant d'être réduit à une étiquette. On est privé de cette liberté. Mais en même temps, la liberté qui est la nôtre nous angoisse tellement que celui qui nous dit ce que nous sommes, au dépens de ce que nous devenons ou de ce que nous sommes susceptibles de devenir, celui qui nous dit ce que nous sommes, celui-là, au fond, nous fait le cadeau de l'immobilité. nous fait le cadeau de nous affranchir de l'expérience terrible que fait Roquentin. Et au fond, l'expérience que fait Roquentin est une expérience que tout le monde ferait si les gens ne se donnaient pas pour but ce petit délire de compensation, ce capitonnage de leurs existences.
Oui, c'est ça. Justement, Monsieur Achille, il est sur le point d'agir. Il va faire quelque chose, il va se lever, il va parler à Roquentin. Et là, ça le calme, il ne bougera plus jusqu'à la fin. Il s'endormira probablement aussi. Donc.
Alors, il y a quelque chose ici d'intéressant dans ce que vous dites, dans le rapport que Roquentin entretient avec l'imminence de quelque chose. Oui. Il y a même un passage dans lequel Roquentin déclare qu'il
il voit
l'avenir. Ouais, bravo, Paola.
J'ai deviné aussi.
Voilà, vous avez deviné, vous avez vu l'avenir. Il voit l'avenir. Et pourtant, c'est étrange de voir l'avenir quand on ne considère pas que les sens précèdent l'existence. Comment voir l'avenir quand on ne tient pas le monde, si vous voulez, quand on ne regarde pas le monde selon le modèle ou le filtre du germe qui donnera le jour à l'arbre? Comment fait-on pour voir l'avenir quand on ne s'abrite pas derrière cette disposition de l'esprit qui considère que les choses sont en germe avant d'être actualisées, qu'elles sont en puissance avant de devenir? Comment fait-on pour voir l'avenir quand on ne s'appuie pas sur cette conception finalement très rassurante des choses?
Je vois l'avenir. Il est là, posé dans la rue, à peine plus pâle que le présent. Qu'a-t-il besoin de se réaliser? Qu'est-ce que ça lui donnera de plus? La vieille s'éloigne en cloquinant, elle s'arrête, elle tire sur une mèche grise qui s'échappe de son fichu. Elle marche, elle était là, maintenant elle est ici. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que je vois ses gestes? Est-ce que je les prévois? Je ne distingue plus le présent du futur. Et pourtant ça dure, ça se réalise peu à peu. La vieille avance dans la rue déserte, elle déplace ses gros souliers d'homme. C'est ça le temps tout nu. Ça vient lentement à l'existence, ça se fait attendre, et quand ça vient, on est écœuré parce qu'on s'aperçoit que c'était déjà là depuis longtemps. La vieille approche du coin de la rue. Ce n'est plus qu'un petit tas d'étoffes noires. Eh bien oui, je veux bien. C'est neuf, ça. Elle n'était pas là-bas tout à l'heure. Mais c'est du neuf terni, défloré, qui ne peut jamais surprendre.
Alors, oui, c'est étrange puisqu'on on dit souvent Sartre, c'est le penseur de la contingence, mais si on peut penser l'avenir, c'est qu'il y a une nécessité. Enfin, quelque chose va se produire, il est persuadé qu'elle va tourner et elle tourne.
Ouais, c'est vrai. C'est étrange, hein. C'est étrange. Vous avez raison. C'est étrange à première vue. Et vous avez raison, mais vous avez une formulation fautive. Vous avez dit, il pense l'avenir. Non, il pense pas l'avenir. Enfin, il le pensera plus tard, d'ailleurs, quand il sera lui-même prophète et qu'il dira en 54 que l'Union soviétique rattrapera bientôt les États-Unis. Mais ça, c'est pas le problème. Ou l'Occident. On s'en fout. Il voit l'avenir. Il voit l'avenir, c'est-à-dire qu'il voit les choses, il voit le monde, il voit le présent. Et il voit le présent sous l'angle de l'avenir, non plus du passé. La nausée est une critique de l'idée de passé, c'est-à-dire de la substantification de nos vies, de la thésaurisation de nos vies. C'est une critique du sentiment que nous pouvons thésauriser tout ce que nous avons fait. C'est une réduction du passé au présent. Le passé, oui, à condition qu'il soit réinvesti dans le présent. La mémoire, d'accord, mais la mémoire sous la forme d'une action, oui. Il est, si vous voulez, le filtre sartrien se pose sur le monde et le regarde d'abord dans son immédiateté, c'est-à-dire loin des préjugés qui nous rassurent, donc hors de toute médiation, que ce soit une médiation conceptuelle, cognitive, ou bien celle de nos préjugés. Bon. Et puis, à force de regarder le présent, on le voit sous l'angle de l'avenir. C'est-à-dire, on le voit comme, non pas gros de tout ce qu'il va devenir, mais comme totalement inédit, totalement neuf. Et cette façon qu'il a de prévoir les choses, il les prévoit sans les déduire. Au fond, il prévoit que quelque chose de neuf va arriver. Et pour cause, parce que tout est neuf aux yeux de Roquentin, puisque les objets qu'il avait l'habitude de voir, il les voit soudain pour la première fois. Et c'est cette nouveauté qu'il décrit par l'avenir, dont le corollaire existentiel et le sentiment d'aventure. Vous avez dans la nausée un passage dans lequel Roquentin dit « Rien n'a changé et pourtant tout existe d'une autre façon. » Je ne peux pas décrire. C'est comme la nausée et pourtant c'est juste le contraire. Enfin une aventure m'arrive et quand je m'interroge, je vois qu'il m'arrive que je suis moi et que je suis ici. C'est moi qui fends la nuit. Je suis heureux comme un héros de roman. » Et c'est là, on a quelques éclaircies dans ce livre sinistre et pluvieux. C'est les moments où, justement, Roquentin entre en littérature. C'est les moments où il s'éprouve heureux comme un héros de roman, c'est-à-dire où il vit son existence, non pas sur le mode répétitif d'un passé qui se prolonge ou d'une rassurance, si j'ose dire, j'aime pas ce mot, mais bon, qui se perpétue, mais sous l'angle d'une aventure, c'est-à-dire littéralement d'un avenir.
Et c'est là qu'il y a une contradiction, justement. Il critique le passé et il s'en rend compte parce qu'il est quand même là pour écrire un livre sur le marquis de Rolbon. Et puis, au bout d'un moment, il trouve ça absurde d'écrire sur ce type qui, en plus, il finit par le dégoûter un petit peu. Donc, il transforme ça en fiction, en roman.
C'est plus fort que ça. C'est effectivement, la nausée raconte effectivement l'histoire d'un homme qui abandonne sa thèse pour se lancer dans la littérature, pour se mettre au roman. Or, c'est le roman d'un philosophe qui en a donné la même version, mais théorique, dans L'être et le néant. Bon, 678 pages de L'être et le néant, 200 pages et des poussières de la nausée, c'est pas le même format. La vitesse d'exécution, et pourtant il y a autant de choses dans la nausée que dans L'être et le néant. La vitesse d'exécution de la littérature est supérieure à la vitesse d'exécution de la philosophie. C'est aussi la raison pour laquelle, dans L'être et le néant, il y a des passages qui sont de vrais passages de théâtre. La femme de mauvaise foi, l'épicier, le soldat, le garçon de café, les comportements de mauvaise foi, c'est surtout là qu'il excelle. On sent à quel point cet homme était fait pour faire du théâtre. Il y a dans la littérature une vitesse supérieure à ce qu'une thèse demande. Car une thèse se porte sur le passé, fait du passé un objet d'étude, c'est-à-dire on dépose de la mort sur la mort. On travaille, on s'endort sur un passé qu'on fouille pour lui-même. Alors que la littérature recycle, revivifie, ressuscite le passé sous la forme du présent, c'est-à-dire de l'aventure, c'est-à-dire de l'avenir. Et c'est la conversion de ce sommeil en résurrection, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la résurrection dans la nausée, que Sartre parvient à opérer, notamment d'ailleurs en empruntant le chemin de la musique.
Vous pensez à la superbe chanson « Some of these days » qu'on a réussi à trouver une belle version
De Sophie Tucker.
De Sophie Tucker.
On va l'entendre.
Tout à l'heure viendra le refrain. C'est lui surtout que j'aime. Et la manière abrupte dont il se jette en avant, comme une falaise contre la mer. Pour l'instant, c'est le jazz qui joue. Il n'y a pas de mélodie, juste des notes, une myriade de petites secousses. Elles ne connaissent pas de repos. Un ordre inflexible les fait naître et les détruit, sans leur laisser jamais le loisir de se reprendre, d'exister pour soi. Elles courent, elles se pressent, elles me frappent au passage d'un coup sec et s'anéantissent. J'aimerais bien les retenir, mais je sais que, si j'arrivais à en arrêter une, il ne resterait plus entre mes doigts qu'un son canaille et languissant. Il faut que j'accepte leur mort. Cette mort, je dois même la vouloir. Je connais peu d'impressions plus âpres et plus fortes. Je commence à me réchauffer, à me sentir heureux. Ça n'est encore rien d'extraordinaire, c'est un petit bonheur de nausée. Il s'étale au fond de la flaque visqueuse, au fond de notre temps, le temps des bretelles mauves et des banquettes défoncées. Il est fait d'instants larges et mous qui s'agrandissent par les bords en taches d'huile. À peine né, il est déjà vieux, il me semble que je le connais depuis 20 ans. Il y a un autre bonheur. Au dehors, il y a cette bande d'acier, l'étroite durée de la musique qui traverse notre temps de part en part et le refuse et le déchire de ses sèches petites pointes. Il y a un autre temps.
Some of these days, you'll miss me, honey. Some of these days, you're gonna be so lonely. You'll miss my hugging. You're gonna miss my kissing. You're gonna miss me, honey, when I'm far away. I feel so lonely for you only, 'cause you know, honey, you've always had your way. And when you leave me, you know it's gonna grieve me. Gonna miss your big fat mama, your mama, some of these days. Some of these days, you'll miss me, honey. Some of these days, you're gonna be so lonely. You'll miss my hugging, you're gonna miss my kissing. Oh, you're gonna miss me, honey, when I'm far away. I feel so lonely for you only, 'cause you know, honey, you've always had your way. And when you leave me, you know it's gonna grieve me. Gonna miss your big fat mama, your mama, some of these days.
Il entend Some of This Day, quand il entend cette musique, parce que c'est pas l'effet du hasard. Il a demandé, lui, à Madeleine, de passer sur le jukebox ce morceau. C'est un des rares moments où, comme vous disiez, il est heureux, il est content.
Tout à fait, il est heureux. Mais c'est pas l'antidote à la nausée. Ou plutôt, c'est une nausée qui, en s'approfondissant, révèle ce qu'elle est véritablement. C'est pas qu'elle est plus douloureuse, c'est qu'elle permet de souffrir en mesure. Ça, c'est à la toute fin, puisqu'il y a plusieurs passages sur Some of These Days qu'il décrit différemment. Et à la toute fin du livre, il dit « Il faut faire comme nous ». Quatre notes de saxophone, elles vont, elles viennent, elles ont l'air de dire « Il faut faire comme nous, souffrir en mesure ». Il ne s'agit pas de ne plus souffrir. Sartre est trop nietzschéen quand il écrit la nausée pour récuser la douleur. Il ne s'agit pas de sortir de la nausée. Il s'agit d'approfondir la nausée et de découvrir ce qu'à son tour elle dissimule. Ce qu'une telle révélation, dans le dégoût qu'elle inspire à celui qui la décrit, dissimule, c'est la possibilité d'un bonheur profond, d'une joie véritable, que la musique révèle. Et que la musique révèle par sa tenue. Derrière il faut imaginer, à l'époque d'ailleurs, on sait bien qu'on ait utilisé une version un peu éraillée comme ça, parce qu'elle permet de comprendre que la musique survit, il y a toute cette dureté, cette précision musicale derrière le grain du sillon qui parcourt le disque, derrière tout ce qui grésille, il y a quelque chose de stable, de constant, c'est un salut par l'art. On peut parler de salut ici. On peut parler d'une doctrine du salut, presque d'une sotériologie, mais c'est une doctrine du salut sans Dieu, naturellement, et c'est une doctrine du salut qui se situe à l'intérieur de la nausée comme dans son écrin. Au fond, qu'est-ce que c'est la nausée ? C'est un monde de charbon qui produit des diamants. C'est du carbone qui, pour le pire, produit du charbon et pour le meilleur, de temps en temps, laisse entrevoir un diamant. Et c'est à ce diamant, et je le dis au sens musical du terme d'ailleurs, c'est à ce diamant que Sartre se réfère pour concevoir la possibilité, non pas de sortir de la nausée, mais de dépasser, de surmonter la nausée en l'approfondissant et en passant d'un travail de tâcheron thésard à un travail de romancier, à un travail d'écrivain.
Vous parliez de salut. Est-ce que la musique, est-ce que Some of These Days est un salut à la façon de la sonate de Vinteuil dans La Recherche du Temps Perdu, par exemple ?
Alors, oui et non. Vous avez raison de faire cette analogie parce que c'est évident, Sartre avait lu Flaubert, Sartre avait lu Proust. Et il est certain qu'il a quelque chose comme ça en tête.
C'est pas pour rien si la serveuse s'appelle Madeleine, peut-être.
C'est pas pour rien si la serveuse s'appelle Madeleine, vous me l'avez enlevé de la bouche. Vous avez raison. Et puis, il y a cinq notes à la petite phrase de la sonate de Vinteuil. Il y a quatre notes de saxophone, Some of These Days, l'une comme l'autre ont cette plasticité extraordinaire d'exprimer, magnifier, sublimer, extraordinariser, si j'ose dire, nos émotions. Cette plongée dans l'ordinaire ménage une surprise stupéfiante qui est la découverte de la vocation artistique d'un homme. La nausée fonctionne en ce sens, d'ailleurs, selon le même schéma que la recherche du temps perdu, puisqu'il s'agit d'un homme qui découvre une vocation d'artiste au sein d'un monde qu'il a d'abord déçu parce qu'il l'avait précédé du désir qu'il en avait ou de l'idée qu'il s'en faisait. C'est au cœur de cette déception que le narrateur de la recherche du temps perdu apprend à remplacer l'imagination par la sensibilité et que le narrateur de la nausée apprend à remplacer la nausée par une forme d'extase qu'on retrouve à la fin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il réécoute Some of These Days, il se moque à un moment des imbéciles qui puisent des consolations dans les beaux-arts. Il dit « Comme ma tante Bigeois, les préludes de Chopin m'ont été d'un tel secours à la mort de ton pauvre oncle. Et les salles de concert regorgent d'humiliés, d'offensés, qui, les yeux clos, cherchent à transformer leur pâle visage en antenne réceptrice. Ils se figurent que les sons captés coulent en eux, doux et nourrissants, et que leurs souffrances deviennent musique, comme celle du jeune Werther. Ils croient que la beauté leur est compatissante, les cons. » Sartre est sans pitié pour ceux qui ont une conception consolatrice de l'art. Alors ça, c'est une critique de Schopenhauer. Parce que Schopenhauer ne voyait d'issue à l'oscillation entre la douleur et l'ennui à laquelle il résume l'existence que dans la suppression du désir que ménage la contemplation artistique. Or, Nietzsche, lui, surmonte Schopenhauer, dépasse Schopenhauer, en faisant de l'art non pas un art consolateur, mais un art affirmateur. En prenant non pas la suppression de la douleur, mais l'approfondissement de la douleur. Et c'est exactement ce que Sartre décrit ici, en s'en prenant à ceux qui voudraient se rassurer avec la musique.
C'est très clair par rapport à Schopenhauer, parce que si je me souviens, c'est vraiment de mémoire, Schopenhauer dit « l'art arrête la roue du temps », quelque chose comme ça. Et là, précisément, il dit « ça serait impossible d'arrêter même une note, elle deviendrait un son canaille, c'est pas possible, c'est comme vouloir prendre le temps par la queue, c'est pas possible. »
Exactement. Il faut assumer la temporalité qui nous constitue.
Il faut la désirer même.
Et il faut la désirer quand bien même elle nous donnerait la nausée. Car désirer la temporalité qui nous constitue, notre condition, c'est d'abord faire ce qu'on a à faire dans l'époque où nous sommes. Obéir aux exigences de l'époque, c'est là notre liberté. Il faut assumer cette temporalité qui nous constitue, car elle produit, elle offre le seul chemin, la seule voie d'accès, la seule libération possible, le seul salut possible, qui n'est certainement pas dans un autre monde, mais dans l'exploration de ce monde-ci et du dégoût qu'il nous inspire, dont la fécondité est pourtant indépassable. Ou plus exactement, un dégoût qu'il faut dépasser pour en découvrir une fécondité qui, elle, est indépassable. Merci Paola, merci à tous. Qu'est-ce qu'on entend là Paola ?
Mais j'assume tout à fait mon choix, c'est un morceau peu connu, c'est un instrumental d'un groupe psychédélique américain des années 60, c'est Sun City Girls.
Baudouin me souffle à l'antenne que c'est Wild World of Animals, le titre de la chanson. Enfin, c'est une chanson sans mots d'ailleurs. On aurait pu aussi entendre la très belle version qu'Ella Fitzgerald propose de Some of These Days, mais ce sera pour une autre aventure, Paola. Cette émission, chers auditeurs, vous la retrouverez sur notre site internet, à la page du Gai Savoir où vous attendent bibliographies, téléchargements et musique. Et quant à nous, nous vous retrouvons dimanche prochain pour parler cette fois-ci des Maximes de La Rochefoucauld dans le cadre d'un partenariat avec nos amis de Philosophie Magazine. de la philo encore et toujours sur la plus belle des radios avec les nouveaux chemins de la connaissance qui font le pari toute la semaine de vous parler de pensée américaine. Yes we can, les nouveaux chemins, c'est tous les jours de 10h à 11h. Sur France Culture, tout de suite, tête à tête et TADI.